Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Habemus Papam, souvenez-vous, c'était le 8 mai, le cardinal Mambertier annonçait l'élection du 260e pape, Léon XIV. Nous voilà déjà un an après cet événement. Quelles impressions le souverain pontife a-t-il déjà laissé? Quels messages ont retenti dans les cœurs de nos invités? L'élection de Léon XIV, un an après, nous revenons sur cette première année de pontificat avec Sandrine de Raguenel. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous enseignez à l'Institut catholique de Toulouse. À vos côtés, le père Charles Rochat, directeur du deuxième cycle de théologie à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour père.
Bonjour.
Merci de votre présence aujourd'hui pour évoquer notre pape, le pape Léon XIV. Alors, c'est vrai qu'on se souvient, le 8 mai 2025, nous avons découvert à la loggia de la place Saint-Pierre de Rome un pape américain. Il était très ému, mais aussi ferme dans ses propos, soigneusement rédigé. Sandrine de Raguenel, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui vous touche dans la personnalité de ce souverain pontife?
Alors, c'est quelque chose qui me touche en fait dans la personnalité de tous les souverains pontifes. Hein. Je suis comme beaucoup, je pense, émerveillée, parce qu'à chaque fois, le Saint-Esprit souffle très fort et nous avons exactement le pape dont nous avons besoin. Il est réellement le doux vicaire du Christ sur la terre, comme le disait Sainte Catherine de Sienne. Ensuite, le pape Léon XIV, ce qui m'a frappé dans son attitude ces derniers temps, c'était sa simplicité. Simplicité notamment avec les jeunes à Rome, qu'il n'hésite pas à aborder très facilement.
Alors, on a vu Léon XIV revenir à un style de papauté plus classique, hein, plus traditionnel. Le choix de sa résidence au palais apostolique, ses habits pontificaux rouges, son jour de repos hebdomadaire à Castel Gandolfo, c'est peut-être des détails. Mais pour vous, père Charles Rochat, comment vous analysez le style, la posture de Léon XIV?
En fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il a été élu un 8 mai. Donc, il a placé son pontificat sous le signe de la paix. Quand il est sorti sur le balcon de la loggia, là, en invitant le peuple chrétien et le monde entier à entrer dans la paix.
Oui, c'était ses premiers mots, hein, la paix soit avec vous.
Et je trouve que ça résume bien le personnage, qui est un homme de paix, un homme de dialogue. Il n'est pas brutal, on sent qu'il est doux dans ses propos, dans ses gestes, même dans sa manière de bénir les enfants. Il n'est pas dégoulinant d'affectif, et en même temps, il est très affectueux, très, très attentionné. Il ne fait pas de la com, il ne fait pas de la pub, il ne fait pas du show, je trouve. Il n'a pas joué, je ne trouve pas qu'il veut jouer à un certain style de pape. Moi, j'ai l'impression qu'au bout de 5 minutes, ça faisait 40 ans qu'il était pape.
C'est vrai.
Et ouais, qu'il n'avait pas besoin de faire des manières pour envoyer un message spécial. On sent qu'il est lui-même, quoi. Voilà. Il a clairement pas cherché le poste, enfin comme tous les autres papes. Je pense pas qu'on fasse campagne, mais je trouve vraiment que son message de paix va bien avec le bonhomme, quoi. On sent que c'est un homme pacifiant.
Oui, c'est vrai. Et puis il a, comme vous disiez, une grande douceur, et il a cette capacité d'écoute. C'est aussi ça qui frappe, hein, dans...
Oui, tout à fait. On sent qu'il est très attentif à prendre le soin d'écouter chacun avant de prendre une décision. On sent aussi quand même que c'est un homme de décision. Il ne se laisse pas balader par l'actualité comme ça, ou les sorties d'un président d'un certain pays ou pas, d'un président américain par exemple, ou je ne sais pas. Enfin, il ne se laisse pas impressionner.
Oui, il ne se laisse pas impressionner.
Et on sent que c'est un homme... J'imagine, hein, mais un homme de prière, quoi. Voilà, donc qu'il puisse sa paix intérieure, non pas de ce monde, mais la paix qui vient d'en haut, quoi. Et donc avoir un religieux, disciple de saint Augustin, soucieux de la paix dans l'Église et dans le monde, on a l'impression qu'il a reçu cette onction. Le 8 mai à 18h, je ne sais plus combien, 02, voilà.
Alors, dès ses premières interventions, les observateurs ont noté le désir d'unité, de Léon XIV. Et c'était aussi une demande, entre guillemets, ou un souhait qui était fait pendant le conclave. Sa devise, in illo uno unum, en celui qui est un, nous sommes un, est tirée des écrits de saint Augustin. C'est déjà une première preuve de ce désir d'unité. Et puis, il y a sa lettre apostolique, in unitate fidei, qui a été publiée à l'occasion du 1700e anniversaire du premier concile de Nicée. Elle atteste aussi de ce désir d'unité. Quel est l'enjeu de cette unité à laquelle le Saint-Père appelle avec tant d'insistance, Père Charles Rochat?
En fait, le pape Léon, c'est quand même un pape qui est théologien aussi. Voilà, il a disciple de Saint-Augustin, donc comme on a dit, il connaît les textes de Saint-Augustin, il a fait un doctorat en droit canonique. Les canonistes seront heureux, s'ils nous écoutent, d'entendre que c'est de la théologie aussi, hein, le droit canon. C'est pas simplement
des règles de droit.
Des règles de droit, voilà. Il y a une vraie théologie derrière. Et donc, il a effectivement, en mettant à l'honneur hein, le 1700e anniversaire de Nicée, je trouve qu'il a mis à l'honneur le fondement de la foi, l'unité de la foi. L'Église n'est pas un club de gens qui pensent la même chose. L'Église, c'est le corps du Christ et dont le fondement de l'unité est le Christ lui-même, rattaché à l'unité trinitaire. Hein, donc, ça, c'est sa devise qui le montre. Et donc, en nous rappelant l'importance du Concile de Nicée, il nous a notamment rappelé l'importance de l'unité dans la foi. Et donc, de la confession de la foi, la formation aussi dans la foi. On sent que c'est un souci pour lui aussi hein, de transmettre le contenu de la foi. Voilà, ne pas laisser la foi être ballottée par les aléas de l'actualité. Donc, ce caractère écuménique hein, donc de l'Église tous ensemble... tourner autour du Christ dans la confession commune de la foi, le fait de réciter, enfin c'est tout simple, hein, mais de réciter ensemble le credo sur place, c'est quelque chose de très fort. Quoi.
Oui.
Donc ça, c'est quand même une garantie d'unité dans la foi très forte, voilà, dans la confession de la foi et dans la foi qui prie. Voilà.
Il remet en fait le Christ au centre hein, dans ce désir d'unité.
Oui. Oui, tout à fait, oui. Oui, donc là, ça d'emblée, il nous place au-delà de questions politiques. Et il nous remet dans le cœur de notre foi, c'est l'unité à la personne de Christ. Quoi. On est attaché au Christ et qui nous montre le Père. Quoi. C'est vraiment la théologie trinitaire de Saint-Augustin.
Oui, oui. Sandrine de Regnel, vous avez été touchée par l'intervention du Saint-Père le 7 octobre dernier, justement, lors de ce 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué?
Alors, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la rencontre avec Bartholomée Ier et la déclaration conjointe du 29 novembre 2025. En fait, un mois après, nous organisions à la faculté de théologie un colloque scientifique, justement consacré au Concile de Nicée, hein, 1700e anniversaire. Et pour moi, cela a été vraiment une coïncidence-providence. D'autant plus que dans cette déclaration conjointe du Saint-Père et de sa sainteté Bartholomée Ier, il était question d'un point qui est assez peu soulevé par les historiens, qui est en fait la date de la fête de Pâques, une date commune de la fête de Pâques. Le Saint-Père et sa sainteté Bartholomée Ier ont particulièrement insisté sur ce point. Or, ce point était à l'ordre du jour en 325. Lorsque l'empereur Constantin s'est adressé aux différentes églises. Et en fait, cette date commune de la fête de Pâques est une manifestation visible de paix et d'unité. Et donc, les deux patriarches nous encouragent vraiment dans cette démarche de faire la paix et l'unité entre les différentes familles chrétiennes qui existent. Et l'abbé Rochat a déjà parlé donc, de cette foi commune qui est exprimée typiquement par le credo de Nicée.
Père Charles Rochat, vous voulez ajouter quelque chose sur cette unité désirée et souhaitée par le pape Léon XIV?
Je trouve qu'il est je parlais tout à l'heure de ce côté pacifiant du personnage. Le fait qu'il soit à l'écoute... Je trouve qu'il donne un visage intéressant de la synodalité dont le pape François nous a beaucoup parlé, dans lequel il a emmené l'Église d'une manière plus forte. On sent vraiment que c'est pas un politicien, mais il a vraiment un souci d'écouter chacun, de ne pas se précipiter. On le voit aussi dans sa retenue, dans sa manière de parler. Effectivement, les discours sont bien préparés, il n'y a pas trop d'impro. Les interviews dans l'avion papal pendant ses voyages apostoliques sont quand même bien ciselées, mesurées. Donc on sent que c'est un homme qui a réfléchi, qui a prié. Et une fois qu'il a bien prié, réfléchi, écouté, en homme prudent, il s'est décidé et puis aller droit
parler.
De l'avant. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Donc on sent qu'il y a, comme avec les pas précédents, hein, on sent qu'il y a un pilote dans l'avion. Alors c'est l'Esprit Saint, hein, en bonne théologie d'abord, le premier pilote. Mais il y a un copilote, hein, donc c'est le pape, on pourrait dire, le vicaire du Christ, hein, sur la terre. Donc du coup, on sent qu'il y a, c'est ça aussi qui est apaisant, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment quelqu'un qui est, comme le disait Sandrine, hein, qui a été vraiment choisi par le bon Dieu, par le Seigneur, et qui a sa place. Et ça, c'est apaisant, quoi. Même si la barque peut tanguer ou la tempête se lever, on sent qu'il y a le Seigneur quand même qui est là.
Autre sujet important et autre combat que mène le Saint-Père, c'est le combat pour la paix. On voit bien avec les différents conflits, la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient, et puis aussi il y a beaucoup d'autres conflits dans le monde. Il y en a notamment au Soudan. Tous ces conflits, toutes ces guerres inquiètent le souverain pontife et il n'a de cesse d'appeler à la paix. Il renouvelle sans cesse ses appels à l'arrêt des combats. Quel regard portez-vous sur ce combat du Saint-Père pour la paix, Sandrine de Ragnel?
Alors, je partirai en fait des vœux que le Saint-Père a présentés aux membres du corps diplomatique, accrédité près le Saint-Siège, en date du 9 janvier 2026. C'était donc l'un de ses premiers grands discours. Et donc, bon, on a déjà parlé d'Augustin, hein, de Saint-Augustin pour le pape, et évidemment, il a parlé d'Augustin. Il a parlé notamment d'un des grands ouvrages d'Augustin, qui est La Cité de Dieu, qui est un ouvrage qui finalement est assez peu connu. On connaît beaucoup les confessions d'Augustin, La Cité de Dieu, beaucoup moins. Et pourtant, c'est un ouvrage qui a été édité et réédité au fil des siècles. Et en partant donc de la Cité de Dieu, le Saint-Père dresse un tableau du monde tel qu'il est actuellement, qui est très impressionnant. Il nous rappelle notamment qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à séjourner dans la cité terrestre avec le cœur et l'esprit tournés vers la cité céleste. Donc si je comprends bien ce que nous dit le pape, c'est-à-dire les pieds bien sur la terre et la tête dans le ciel. Et à partir de là... en tout cas, moi, j'ai noté trois choses qui m'ont marqué, trois points. D'une part, il nous appelle tous à retrouver le sens des mots. Alors, pardon, mais c'est le professeur, hein, qui parle là. Le sens des mots pour réapprendre à communiquer, à dialoguer. Et il nous appelle, tous les chrétiens, à retrouver ce sens des mots partout, dans nos foyers, sur les places publiques, sur les réseaux sociaux, dans tous les moyens de communication et partant dans les relations internationales. Donc d'abord, retrouver voilà, ce sens des mots, la certitude de la vérité des mots sur laquelle on peut s'appuyer et à partir de laquelle on peut dialoguer. Donc ça, c'est déjà un point qui me semble fondamental pour toute notre vie.
Si je puis me permettre, effectivement, à ce propos, j'avais été frappé par, c'est tout à fait dans ce que vient de dire Sandrine, Il a notamment invité les gens d'église à faire attention aux mots et à la précision des termes qu'on prend et à éviter les langages équivoques dont seuls parfois les prédicateurs ont le secret. Donc vous voyez des formules un peu passe-partout qui font plaisir à tout le monde mais en fait qui sont tellement équivoques que tout le monde y met ce qu'il veut y mettre. Et du coup, on peut un peu tromper les gens voilà, dans des formules toutes faites et qui ne sont pas précises et qui peuvent obscurcir la foi. Et donc, il nous invitait effectivement à retrouver le sens des mots et notamment à nous, prédicateurs, à faire attention à bien dire les choses telles qu'elles sont et à ne pas un petit peu enfumer les gens pour leur faire plaisir. Quoi.
Et là, on retrouve toujours cet héritage de Saint-Augustin, hein, puisque Saint-Augustin disait que la paix ne s'obtient ni par la diplomatie, ni par la guerre, mais par une commune recherche de la vérité. Et cette vérité, elle passe aussi justement par le langage, quelque chose de très propre. Sandrine de Ragnel, pardon.
Alors, le deuxième point qui m'a frappé donc, dans ce discours initial du... Enfin, pas tout à fait initial, mais ce discours du Saint-Père en janvier, il rappelle le rôle social fondamental de la famille comme l'environnement adéquat pour le développement, la croissance de toute vie humaine, de sa naissance jusqu'à sa mort naturelle. Et cela, il le dit en termes extrêmement forts dans ce document. Voilà, à remettre le focus, en fait, sur la famille comme cellule de base de la société civile, mais de l'Église aussi. Hein. Et donc, en tant que chrétien, voilà, nous sommes appelés à choyer cette cellule qu'est la famille. Et le troisième point qui me semble fondamental pour notre propos, c'est justement cet accent que met le pape Léon XIV sur la recherche de la paix. Et la paix qui commence au cœur de l'individu, qui ensuite s'étend dans la famille, puis dans l'État, puis dans le monde. Et cette recherche de la paix demande un effort. Et un effort qui est continu, un effort qui est patient, de construction. Hein, je reprends exactement les mots de Léon XIV, alors que la guerre, voilà, la guerre, c'est de la destruction. L'effort pour la paix, il est continu et il est patient. Et en plus, il demande de veiller. Il demande d'être vigilant de manière constante. Voilà un petit peu les trois points qui m'ont frappé dans ce discours. Donc, il y a évidemment beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, ces trois points me semblaient importants pour notre temps.
Mmh. Père Charles Rochat.
Pour la question de la paix aussi, effectivement, il a une approche très théologale. C'est-à-dire, c'est pas une construction humaine pour lui. C'est un don qui vient d'en haut, quoi, qui vient de Dieu. Notamment cette invitation là dernière à jeûner et prier pour la paix. Voilà, ce sont des armes que les hommes ne comprennent pas, évidemment. Ce sont des armes entre guillemets de Dieu. Le Seigneur lui-même nous l'a dit. Hein, y a certains maux dont on peut être délivré que par le jeûne et la prière. Et donc il nous a invités à prendre les bonnes armes et à pas se tromper de combat. Voilà. Et donc là c'est simple, hein, mais c'est fort, je trouve, hein, d'inviter parfois les chrétiens, de dire, ben voilà, vendredi prochain, je vous invite tous à jeûner, à prier pour la paix. Voilà.
Oui. Et puis ça...
Le pape François l'avait fait lui-même aussi. Hein,
c'est vrai, mais ça veut dire aussi que ce combat pour la paix, c'est ce que ça rejoint ce que vous disiez, Sandrine Ragnel, c'est un combat que chacun doit mener, une construction. Et c'est pas juste les dirigeants qui, évidemment, ils doivent s'entendre et ils doivent discuter, mais c'est un combat de chacun.
Oui, tout à fait, oui. Donc il nous embarque effectivement dans... C'est un aspect pour le coup intéressant aussi de la synodalité, hein, qui n'est pas d'abord une espèce de manière consensuelle de décider ensemble, hein, mais d'être tous embarqués dans la barque de l'Église. Quoi, voilà. De ce point de vue-là, on est tous dans le même bateau, et donc la paix, c'est l'œuvre de chacun. Quoi. Mmh. Avec des armes voilà, théologales, voilà, des armes qui viennent d'en haut, notamment en se mettant à genoux et en ayant un peu faim.
Il y a beaucoup de défis hein, qui attendent, ou en tout cas auxquels le pape Léon XIV est confronté. L'un de ces défis, c'est la question de la famille. Lors de sa catéchèse donnée au cours des audiences générales autour de la constitution Lumen Gentium du Concile Vatican II, le pape Léon XIV s'est arrêté le 1er avril sur le rôle des laïcs au sein du peuple de Dieu. Comme laïque, comme mère de famille, comme enseignante, Sandrine de Ragnel, comment les propos du Saint-Père résonnent-ils pour vous?
Alors tout d'abord, le pape Léon XIV pose un fait, qui est contenu dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Les laïcs sont simplement l'immense majorité du peuple de Dieu. Voilà, déjà c'est posé. Il nous rappelle également qu'en tant que baptisés, nous exerçons un sacerdoce qui est dit le sacerdoce commun, à côté, avec les prêtres qui, eux, détiennent, enfin, en tout cas, ont reçu le sacerdoce ministériel. Et qu'à ce titre, nous avons un rôle particulier à jouer dans l'Église. Alors, le Saint-Père... revient effectivement sur la constitution Lumen Gentium, et il ajoute des choses qui sont des points qui sont très personnels, qui ne sont pas des citations et qui sont assez nouveaux dans la manière de parler. il nous dit que tout le champ apostolique des laïcs ne se limite pas à l'Église, mais s'étend au monde. Nous sommes appelés, en tant que chrétiens laïcs dans le monde, à témoigner de l'Évangile sur les lieux de travail, dans la société civile et dans toutes les relations humaines. Là, je cite Léon XIV. Nous sommes appelés à imprégner de l'Esprit du Christ le monde. Et cela, ça me semble quelque chose d'absolument fondamental dans cette théologie du laïcat qui est encore en train d'être explorée. On y va pierre par pierre. Hein. Il y a des choses qui ont été apportées par Lumen Gentium par d'autres textes que cite le Saint-Père dans cette audience générale. Et voilà, il y a d'autres briques qui sont apportées par Léon XIV. Nous avons ce travail d'imprégner le monde de l'Esprit du Christ.
Ça n'est pas rien.
Partout où nous sommes, et ça n'est pas rien. C'est un champ absolument immense. Beaucoup de prédicateurs à Toulouse utilisent l'expression « disciple missionnaire ». Et effectivement, elle correspond très bien à notre travail au milieu du monde, partout où justement les prêtres ne vont pas, partout où les religieuses ne vont pas, partout où les religieux ne vont pas, et bien les laïcs, nous y sommes. Et là, nous avons à imprégner le monde de cet esprit du Christ.
Et le pape a déclaré, c'est un horizon atteignable seulement avec la contribution, le service et le témoignage des laïcs.
Tout à fait. Oui. Donc nous avons aussi un rôle irremplaçable dans l'Église pour la diffusion de l'Évangile. Et tout d'abord, auprès de nos familles, auprès de nos relations sociales, auprès de tous les publics que nous touchons jour après jour. Cela va effectivement de nos enfants jusque la boulangère qu'on voit le matin pour aller chercher le pain, les étudiants que nous croisons toute la journée. Le champ est absolument immense et c'est le monde. Donc on a un panorama là qui est brossé, qui est absolument édifiant, enthousiasmant. On a envie d'y aller, d'imprégner ce monde de l'Esprit du Christ.
Père Charles Rochat, sur cette dimension du peuple de Dieu, missionnaire et qui doit imprégner le monde de l'Esprit du Christ.
Là, ça fait partie effectivement des sujets où il est vraiment en pleine continuité avec ses prédécesseurs, François et puis Jean-Paul II, pas tous les faire, possible, Jean 23, depuis Vatican II, il y a quand même un souffle missionnaire fort qui a été donné, redonné. Ça me fait penser à un texte, une allocution du pape François, je crois, des évêques argentins. C'est pas un grand document, mais c'est assez percutant, comme souvent avec le pape François, qui avait l'art de la formule. Et il disait, attention, la vocation missionnaire des laïcs, ce n'est pas... de travailler pour l'Église, dans les structures d'Église. De la structure institutionnelle de l'Église.
De remplacer les prêtres.
Voilà.
C'est ça qu'il voulait dire.
Oui, ça, il disait, parfois on confond être dans le monde et travailler pour l'Église. Pour l'Église institution. On en a besoin, évidemment. C'est une porte ouverte. On a besoin, effectivement, de laïcs aussi dans les structures d'Église. Mais il disait, attention, la vocation missionnaire des laïcs, c'est pas être engagé pour telle ou telle communauté ou telle ou telle structure diocésaine ou curie diocésaine ou curie romaine. Non, la première vocation des laïcs, c'est d'être dans le monde. Donc le terrain de mission, le terrain de jeu, entre guillemets, c'est pas les gradins de l'institution ecclésiastique, mais c'est la pelouse du monde. Voilà, donc il faut quitter les gradins et être sur le terrain, quoi. Donc le premier lieu, effectivement, où les laïcs sont envoyés en mission, c'est le monde. Donc aimer le monde, pas être du monde, mais être dans le monde. Et j'ai trouvé ça intéressant de décléricaliser le laïcat et de rappeler qu'effectivement, ils sont attendus en premier. Et nous, les prêtres, on est là, pour le coup, au service des laïcs pour les aider ensemble à être missionnaires. Mais le premier terrain, c'est le monde, voilà.
Merci pour toutes ces précisions. Sandrine de Ragnel et Père Charles Rochat, je vous propose de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons Laudate Dominum, interprété par les petits chanteurs à la Croix de Bois.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec Sandrine de Ragnel et le père Charles Rochat de l'Institut catholique de Toulouse pour évoquer la première année du pontificat de Léon XIV. Nous avons parlé avant cette pause musicale d'un premier défi. Il y en a beaucoup auquel est confronté le Saint-Père. Premier défi sur le rôle des laïcs, la place des laïcs dans le monde et leur mission. Un autre défi, c'est d'apaiser les tensions liturgiques. Le 18 mars dernier, dans son message adressé aux évêques de France, le pape Léon XIV les invitait à inclure généreusement, je le cite, les fidèles attachés à la messe traditionnelle. Quelle est votre analyse, Père Charles Rochat ?
Ouais, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'unité, sur la paix. Voilà. On sent qu'il a un souci de favoriser la paix. C'est pas directement lié à votre question, mais quand même, ce qui nous a beaucoup touché, nous prêtres français, c'est que à peine devenu pape, il nous a adressé une lettre. Et ça, on a beaucoup apprécié. Il y a une dimension très paternelle du Saint-Père, qui a vraiment un souci de parler aux prêtres. De les encourager, de les fortifier dans leur ministère. Récemment, là, il a eu une attention toute particulière aux prêtres qui peuvent avoir des difficultés dans leur ministère, justement. Donc on sent que c'est un père, pour nous, soucieux d'une vie sacerdotale rayonnante, apaisée et missionnaire. Voilà.
Un ministère joyeux et passionné, a-t-il écrit.
Voilà, exactement. Alors on sent qu'il le vit lui-même. Il l'a vécu, voilà, notamment dans sa dimension... de prêtres et d'évêques en mission, là, au Pérou. Et on sent qu'il veut nous transmettre une joie, voilà. Et il passe par la dimension encourageante de sa paternité, comme successeur de Pierre. Et donc, l'aspect liturgique aussi, bon, je ne suis pas un spécialiste dans des questions liturgiques, mais on sent qu'il a un souci de assez pragmatique aussi, il y a un côté très américain de ce point de vue-là. Qu'avait aussi le pape François, d'être assez pragmatique et de vouloir permettre aux prêtres de vivre de la plus grande unité possible. Alors, sans compromission, il ne s'agit pas de renier un tant soit peu sur l'héritage de Vatican II. Il ne s'agit pas chez lui non plus, évidemment, de revenir sur le passé comme des gardiens de musée sur une momie dont il faut prendre soin. Mais il y a une dimension... Effectivement, il veut redonner de la paix sur ces questions liturgiques dans vraiment l'esprit le plus fidèle au Concile Vatican II.
Oui, parce que le Traditionis Custodes avait quand même choqué certains et puis en tout cas bouleversé quand même des chrétiens.
Oui, ça avait choqué certains, effectivement. Après, bon, je pense que le pape François avait des bonnes raisons de le faire. Notamment, il l'a dit, c'est notamment par rapport au mouvement traditionnel aux États-Unis, pas que, mais notamment aux États-Unis, où de fait, j'ai personnellement vécu plusieurs années là-bas, il y a pas mal de... il peut y avoir, je ne veux pas généraliser, mais une certaine raideur là-dessus, de se crisper, donc de qui peut donner effectivement l'impression parfois de remettre en cause l'héritage du Concile Vatican II. Voilà, donc d'aborder les choses sous un angle dialectique, de confrontation. Qui peut donner parfois l'impression d'être un peu passéiste, quoi. Donc, je pense que le pape François a voulu taper un peu dans la fourmilière là-dessus. Après, c'est sûr que en France, ça a pu être pas bien reçu, parce que de fait, il y a aussi beaucoup de prêtres attachés à la forme traditionnelle qui ont un vrai souci d'unité et qui sont pas du tout des prêtres d'arrière-garde ou qui remettent en cause le Concile Vatican II. Donc, certains prêtres qui ont voulu vraiment faire des efforts d'unité dans ce sens ne se sont pas sentis très soutenus par rapport à cette décision. Et donc, je pense que là, Léon XIV donne l'impression de vouloir remettre de la paix dans tout le dispositif. Quoi.
Oui, il a posé des gestes d'apaisement. Notamment, il avait autorisé la célébration de la messe tridentine à Saint-Pierre de Rome, par le cardinal Raymond Burke. Et puis, il avait laissé parler Mgr Miguel Buendia, qui est le nonce du Royaume-Uni, qui disait que le pape ne souhaitait pas abroger Traditionis Custodes, mais qu'il désirait faire preuve de clémence vis-à-vis des communautés concernées. Donc là, on voit vraiment voilà, ces gestes d'apaisement. Hein.
Et puis récemment, je crois, hein, j'ai pas travaillé ça dans le détail, hein, il me semble que le père abbé de Solesmes, hein,
oui,
donc Quémelin, a proposé au pape, hein, donc de Léon XIV, de je crois, une espèce de réforme de la réforme, au sens où...
un chemin commun.
Oui, voilà ça, d'intégrer dans le Novus Ordo, hein, donc, qui a été publié par Paul VI en 1969, hein, d'intégrer peut-être différentes possibilités, d'intégrer donc certains aspects de la forme ancienne du rite dans l'ordo nouveau. Voilà, ça peut être peut-être un chemin parmi d'autres, hein, mais souvent les moines sont intéressants, hein, ils nous remettent dans une certaine sagesse séculaire, de prière et de réflexion, dont on a beaucoup à bénéficier, je pense.
Oui, donc on sera attentif effectivement à ce travail. Vous avez évoqué, Père Charles Rochat, l'attention de Léo XIV, hein, vis-à-vis des prêtres, une approche paternelle, réconfortante. Il y a aussi quand même un défi, c'est la formation des prêtres, notamment les questions affectives, on l'a vu avec le scandale des abus. Que représente ce défi particulièrement ?
J'ai été assez frappé par un texte que le Saint-Père a publié là, donc, en décembre dernier, pour les 60 ans de texte, hein, du Vatican II, Optatam Totius et Presbyterorum Ordinis, hein, sur la formation des prêtres. Et il invite dans ce texte à retrouver un dynamisme missionnaire et puis un dynamisme fraternel, de vie commune. Je vous cite un passage, hein, de sa lettre. Hein. Il dit « Ce n'est pas un hasard si le Concile Vatican II a presque toujours parlé des prêtres pluriels. Aucun pasteur n'existe seul. Rendre toujours plus visible cette dimension relationnelle et de communion du ministère ordonné dans la conscience que l'unité de l'Église tire son unité de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » En citant saint Cyprien. « Tout ceci est l'un des principaux défis pour l'avenir, surtout dans un monde marqué par les guerres, les divisions et les discordes. » Fin de citation. Voilà, donc il nous invite vraiment à retrouver ce que le Concile Vatican II a mis particulièrement à l'honneur, hein, c'est la dimension fraternelle et communautaire de la vie sacerdotale. Voilà. C'est un souci que le pape porte. J'ai trouvé ça fort de mettre ça à l'honneur et de nous rappeler que nous, les prêtres, on n'est pas fait pour être tout seul. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est tous faits pour une certaine forme
une
de vie,
vie
commune.
Oui, oui.
Ça, heureusement qu'il y a de la liberté dans le peuple de Dieu, hein, et que l'Église propose, hein, de pouvoir vivre de manière différente cette vie commune. Mais voilà, il nous rappelle quand même qu'on n'est pas fait pour être tout seul, que le pasteur n'est pas un pasteur tout seul. Et il nous invite à redonner une dimension fraternelle plus forte à la vie sacerdotale. Voilà, je sais que notre archevêque ici à Toulouse, hein, Mgr Kemel, est soucieux de ça, hein, de pouvoir...
rassembler,
oui,
faire se rencontrer les
prêtres. Et de permettre, à ceux qui le désirent aussi de vivre une vie sacerdotale commune, plus ou moins forte, sans imposer un modèle unique, hein, donc ça a une grande liberté là-dessus, mais je trouve que c'est vraiment enraciné justement dans ce message fort que le pape Léon nous donne.
Voilà. Oui, puis il y a là aussi la question de la solitude des prêtres, et justement ce désir de fraternité, il répond d'une certaine manière.
En fait, il répond à deux choses. Il répond à effectivement, la question de la solitude, mais je trouve que ce serait réduire trop la vie fraternelle à une espèce de
comme de palliatif.
Oui, voilà, parce que bon, là, c'est difficile d'être tout seul, donc on va vous mettre ensemble. En fait, chez le pape Léon, il y a vraiment une dimension missionnaire donnée à la vie commune. La vie commune des prêtres, c'est pas d'abord pour qu'ils se sentent moins seuls, c'est surtout parce qu'elle est féconde en elle-même, elle est missionnaire. Voilà, c'est un témoignage. Par la vie fraternelle, la vie de prière ensemble et la vie pastorale ensemble, de porter tout ça ensemble, ça c'est missionnaire, ça montre Jésus au monde, voilà. Et donc ça, je trouve qu'il y a une dimension très forte et très revigorante, renouvelante pour nous, d'aborder la vie fraternelle, sacerdotale, sous cet angle-là.
Ouais, et cette dimension fraternelle, on la retrouve aussi dans la vie de famille, hein, le fait d'être missionnaire ensemble.
Tout à fait, oui, c'est l'une des caractéristiques de la famille, c'est d'être ouverte à tous ceux qui nous entourent. Mais simplement, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire l'abbé. Cette dimension fraternelle entre les prêtres, c'est vrai qu'au sein de l'ICT, qui est donc un établissement de formation, hein, justement, pour les futurs prêtres, je pense que c'est d'autant plus fondamental que les prêtres de l'ICT puissent être très unis, très fraternel entre eux, parce que les étudiants, voient.
Et c'est là, un témoignage. Là.
Et là, il y a vraiment voilà, un témoignage qui est très fort pour leur vie future, hein, notamment nos séminaristes, voilà, pour qu'ils puissent, à leur tour, vivre de cela quand viendra le moment, si Dieu les appelle, etc. Mm-hmm.
Oui, c'est vrai. Je pensais pas parler de ça, mais effectivement, hein, c'est très parlant ce que vient de dire Sandrine. On essaye de vivre dans le corps professoral, entre prêtres, mais aussi prêtres et laïcs, hein, parce que évidemment, heureusement, il n'y a pas que des prêtres dans le corps professoral. Je pense que même la majorité sont dans la faculté de théologie sont plutôt laïcs, je dirais, non ? Enfin, en tout cas, il y en a quand même beaucoup. De pouvoir vivre ensemble la vie communautaire, la vie commune dans la recherche de la vérité, dans l'enseignement, et aussi de se partager nos recherches, de prendre des temps fraternels ensemble aussi. Et ça, c'est effectivement très porteur. L'Église dit que la famille est une église domestique. Une faculté de théologie peut être aussi une petite église domestique sui generis. Et en tout cas, je trouve qu'on la vit de façon très forte à la faculté de théologie à l'ICT ici.
Un dernier défi dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'activité missionnaire de l'Église. Hein, un défi qui attend et auquel est confronté le Saint-Père. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire ?
Je vais rebondir sur ce texte que je vous ai cité là, parce qu'il en parle aussi. Donc dans ce texte, hein, une fidélité qui génère l'avenir, je vous cite hein, Léon XIV. Il est nécessaire que les prêtres et les laïcs tous ensemble opèrent une véritable conversion missionnaire qui oriente les communautés chrétiennes sous la conduite de leur pasteur, au service de la mission que les fidèles accomplissent dans la société, dans la vie familiale et professionnelle. Voilà. Donc il nous redonne hein, cette impulsion que le pape François et ses prédécesseurs aussi ont redonné, c'est que l'Église, comme disait Paul VI hein, dans son encyclique sur l'évangélisation, Evangelium Gentium en 1975, il dit que l'Église est faite pour évangéliser. L'ADN de l'Église, c'est d'être en sortie, c'est d'être en mission. Voilà. Voilà, donc il nous redonne cette impulsion missionnaire hein, pour sortir d'un entre-soi et d'une conception du sacerdoce ou du laïcat de sacristie. Et donc vraiment de nous mettre en sortie, dehors, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle au monde. Quoi, voilà. Et de nous rappeler à nous, prêtres et laïcs, tous ensemble, pas les prêtres d'un côté et les laïcs de l'autre, de vivre ça, de vivre cette véritable conversion missionnaire. Je trouve que c'est très enthousiasmant.
C'est enthousiasmant, c'est un défi qui attend chacun et que le pape Léon XIV porte dans son cœur et sa prière. Sandrine de Ragnel, un dernier mot pour conclure.
Alors, juste avant de pouvoir justement dire ces derniers mots, j'aimerais simplement dire aussi que dans cet appel missionnaire, en tout cas pour ce qui concerne les laïcs, notre champ privilégié va aussi être notre travail professionnel. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner parce que cela va vraiment dans ce sens-là. Partout où nous travaillons, à côté des uns, des autres, des hommes, des femmes de notre temps, nous avons aussi à apporter cette présence chrétienne et à la dire. C'est impressionnant de voir aujourd'hui... Nous avons des jeunes qui nous poussent à annoncer l'évangile de manière explicite. Je ne sais plus combien ont été baptisés la nuit de Pâques à Toulouse, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Voilà.
Il y a une soif et il faut y répondre, voire même l'anticiper par l'annonce.
Exactement. Mmh. Et derrière aussi, former tous ces jeunes, catéchiser pour qu'ils connaissent de plus en plus Jésus-Christ et s'attache à lui.
C'est comme ça qu'on peut peut-être comprendre hein, cette parole donc, du Saint-Père dans ce texte-là. Il dit hein, « Il apparaîtra ainsi plus clairement que la paroisse n'est pas centrée sur elle-même, mais qu'elle est orientée vers la mission et appelée à soutenir l'engagement de tant de personnes. » Voilà, donc effectivement, hein, la fête des catéchumènes nous pousse aussi à redonner une dimension vraiment encore plus missionnaire à nos paroisses.
On va s'arrêter sur cette invitation. Merci beaucoup Sandrine de Ragnel, merci Père Charles Rochat. Vous avez partagé votre analyse sur ce qui vous a touché lors de cette première année du pontificat de Léon XIV. Et je signale au passage l'excellent hors-série d'Aletheia Magazine dans la tête de Léon XIV qui est paru à l'occasion de la première année du Saint-Père au Vatican. Merci infiniment.
Merci à
vous. Merci beaucoup.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.